Chapitre 94, Épître d'un maître chanteur. Pendant que l'abbé Dominique revient à Paris, le cœur brisé par le sombre résultat de son pèlerinage, que nos lecteurs nous permettent de les conduire rue Mâcon, chez Salvator. Là, ils apprendront quel terrible événement avait amené à 7 heures du matin Regina chez Pétrus. Salvator, absent depuis quelques jours, venait de rentrer chez lui lorsqu'il fut interrompu, au milieu des tendresses de Fragola et des caresses de Roland, par 3 coups frappés à la porte. À cette manière de frapper, il reconnut un des 3 amis. Il alla ouvrir, c'était Pétrus. Salvator recula de 2 pas devant la figure décomposée du jeune homme. Il lui prit vivement les mains. « Mon ami, lui dit-il, il vient de vous arriver un grand malheur, n'est-ce pas ?»« Un malheur irréparable, répondit Pétrus d'une voix presque inintelligible. « Je ne connais qu'un malheur irréparable, répondit gravement Salvator. C'est la perte de notre honneur, et je n'ai pas besoin d'ajouter que j'ai autant de foi dans le vôtre que dans le mien. » « Merci, répondit affectueusement Pétrus, en serrant énergiquement les mains de son ami. « Maintenant voyons, nous sommes des hommes, parlons en hommes. Que vous est-il arrivé, Pétrus ? » demanda Salvator. « Lisez, répondit le jeune peintre, en présentant à son ami une lettre toute chiffonnée et qui avait été profondément mouillée de larmes. Salvator prit la lettre, la déplia, tout en regardant Pétrus, et puis, reportant ses yeux du jeune homme sur le papier, il lut. « À la princesse Regina de Lamotte-Houdan, comtesse rapte. Madame, un des plus dévoués et des plus respectueux serviteurs de la noble et antique famille de Lamotte-Houdan a trouvé, par un de ces hasards où se montre visiblement la main de la Providence, l'occasion de vous rendre anonymement le plus signalé service qu'une créature humaine puisse rendre à une autre créature de la même espèce. Vous partagerez, j'en suis certain, mon opinion, madame, quand vous saurez qu'il s'agit non seulement du repos et du bonheur de toute votre existence, mais encore de l'honneur de monsieur le comte Rapte, et peut-être même d'une chose bien autrement précieuse, de la vie de l'illustre maréchal, votre père. Je vous demande la permission de vous taire les moyens à l'aide desquels je suis arrivé à la découverte du danger qui vous menace et à l'espoir de vous en préserver à jamais. Les vrais dévouements sont modestes, et permettez-moi de le répéter, j'ai l'honneur de me dire un des plus dévoués serviteurs de la famille de Lamotte-Houdan. Voici, madame, le fait dans toute son horrible vérité. Un homme, un scélérat, un misérable, un coquin digne du plus horrible châtiment, a trouvé par hasard, dit-il, chez M. Pétrus, 11 lettres signées du nom de Regina, comtesse de Brignoles. Il sait bien, madame, que vous n'êtes pas comtesse de Brignoles. Votre noblesse est bien autrement plus ancienne que celle de ces dignes marchands de prunes. Mais il dit que si vous pouvez nier le nom, vous ne pouvez nier l'écriture. J'ignore par quelle fatalité ces lettres sont tombées dans ses mains, mais je suis à même de vous renseigner sur le prix exorbitant qu'il met à leur restitution. » Salvator regarda Pétrus comme pour lui demander ce qu'il pouvait y avoir de vrai dans ce commencement d'épître. « Oh, lisez, lisez, dit Pétrus, nous ne sommes pas au bout. » Salvator continua. Il ne demande pas moins que la somme insensée de 500 000 francs, qui, enlevée d'une fortune comme la vôtre, fera un déficit à peine visible, tandis que dans ses mains, elle assurera la tranquillité de toute une vie. En voyant ce chiffre, Salvator fronça si durement le sourcil que Pétrus s'écria d'une voix étouffée et en cachant son visage entre ses mains. « N'est-ce pas, c'est horrible !» « Horrible en effet, répondit Salvator en secouant tristement la tête. Mais de cette voix calme qui semblait ne devoir point troubler la chute du monde, il continua. « Ce minérable dit, madame, pour justifier le prix exorbitant qu'il met à ces précieuses lettres, que chaque épître contenant une moyenne de 50 lignes ne peut s'estimer, vu la beauté et la condition de la personne qui les a écrites, moins de 50 000 francs. » Ce qui met la ligne à 1 000 francs et 11 lettres à 550 000 francs. Ne vous effrayez cependant pas trop, madame, vous verrez tout à l'heure que mon ami, et je dis mon ami, je voulais dire que le misérable réduisait ses prétentions à 500 000 francs. quelques observations que j'ai pu lui faire, quelques prières, quelques supplications, quelques menaces même que j'ai pu lui adresser, non seulement il a persisté dans son exécrable projet, mais encore il a soutenu que, vu les sentiments de toute nature exprimés dans ses épîtres, et dont la publicité mettrait en péril l'honneur de monsieur le contracte et les précieux jours de monsieur le maréchal de La Motte-Houdan, 500 000 livres étaient une véritable bagatelle. J'essaie de l'effrayer alors sur les dangers qu'il courait lui-même à jouer un pareil jeu. Je vous ai montré à lui, apostant des hommes de la police pour le faire arrêter lorsqu'il se présenterait pour toucher cette somme qui paraît lui être si nécessaire que, sur son chiffre, il ne supporte aucune contestation. Je lui ai dit que toute autre femme que vous, menacée dans ses affections les plus chères, irait encore plus loin et pourrait le faire assassiner. Mais à cette observation que je croyais sérieuse cependant, le drôle s'est mis à rire, disant que dans l'un ou l'autre cas il y aurait procès, que les lettres seraient nécessairement produites au procès, citées par le procureur du roi, reproduites par les journaux, et que par conséquent, plus que jamais, sans compter votre réputation, serait en péril l'honneur de monsieur le contracte et les précieux jours de monsieur le maréchal. J'ai été obligé de me rendre à cette péremptoire raison. Ah, madame, il y a de bien grands coquins dans notre pauvre monde. J'ai donc la douleur de vous annoncer qu'après avoir cherché inutilement tous les moyens imaginables de parer à cette catastrophe, vous n'avez, à mon avis, qu'un seul moyen d'assurer le repos de votre famille, c'est d'en passer par où veut cet indigne scélérat. Donc voici les propositions qu'il a l'honneur de vous faire et que j'ai l'honneur de vous transmettre en son nom, souhaitant et espérant, madame, qu'en passant par la bouche d'un loyal et vertueux gentilhomme, les paroles de ce coquin fieffé perdront une partie de leur amertume. Il demande donc 500 000 francs, et pour vous prouver la loyauté de son désintéressement, le cœur humain est un inextricable dédale qui n'a d'équivalent que l'abus que parfois on fait de la langue. Et pour vous prouver, répéterai-je, sa loyauté et son désintéressement, il offre de vous remettre d'abord une première lettre sans condition, afin que, si vous avez l'aveuglement de conserver quelques doutes, ce doute vous soit enlevé, et il me charge en conséquence de la joindre à cette épître. Voici comment il ne pousse qu'à 500 000 francs une prétention qu'il eût pu élever à 550 000. Il pense au reste qu'après vous avoir donné une preuve si éclatante de sa bonne foi, vous ne douterez plus de la franchise ultérieure qu'il mettra dans ses relations avec vous. Si ces conditions sont acceptées, ce dont il ne doute pas, il vous prie de mettre ce soir en signe de consentement une bougie à la dernière fenêtre de votre pavillon. Il sera sous cette fenêtre à minuit sonnant. Ce premier point arrêté, il vous supplie de vous trouver le lendemain à la même heure derrière la grille de votre jardin, du côté du boulevard des Invalides. Un homme dont la vue ne devra aucunement vous effrayer, car autant son cœur roule de noire perfidie, autant son visage trompeur porte la douceur et l'innocence, un homme s'approchera de la grille et vous montrera de loin un paquet de lettres. Vous, madame, de loin aussi, vous montrez le premier paquet de 50 000 francs en billets de banque, soit de 1 000, soit de 5 000 francs. Cette démonstration de votre part sera la preuve que vous avez compris. Il fera alors 3 pas vers vous, vous ferez 3 pas vers lui, et au même temps qu'il avancera sa main, vous étendrez la vôtre. Alors vous lui remettrez le prix de la première épître, et lui vous remettra l'épître. Il sera ainsi fait avec la même régularité pour la deuxième, la troisième, enfin jusqu'à la 10e inclusivement. Il croit, madame, que les mauvais jours qu'il traverse en compagnie de toute la France, la cherté des vivres, l'augmentation exorbitante du prix des loyers, les cris déchirants d'une famille nombreuse et affamée sont autant de motifs, sinon suffisants, du moins spécieux, pour justifier ou tout au moins atténuer la hardiesse de sa requête. Quant à celui qui se charge d'une façon tout à fait désintéressée d'être l'intermédiaire de ce misérable près de vous, il se prosterne bien humblement à vos pieds, vous suppliant une troisième fois, madame, de le compter au nombre de vos plus dévoués et de vos plus respectueux serviteurs. Signé, comte Ercolano. Voilà en effet un grand misérable, dit Salvator de sa voix calme et douce. Ah oui, un infâme coquin, reprit Pétrus, les dents et les poings serrés. Et que comptez-vous faire? Demanda Salvator, regardant fixement Pétrus. Je n'en sais rien, répondit Pétrus, désespéré. J'ai cru que j'allais devenir fou. Par bonheur, j'ai tout naturellement pensé à vous, et je suis accouru vous demander conseil et assistance. Ainsi, vous n'avez trouvé aucun remède? J'avoue qu'un seul, jusqu'à présent, s'est présenté à mon esprit. Lequel? Celui de me brûler la cervelle. Ce n'est point un remède, c'est un crime, répondit froidement Salvator, et un crime n'a jamais guéri une douleur. Pardonnez-moi, répondit le jeune homme, mais vous devez comprendre que je n'ai point la tête à moi. Et cependant, si vous en avez besoin de votre tête, c'est aujourd'hui. Mon ami, mon cher Salvator, dit le jeune homme, en se jetant dans ses bras, tandis que Fragola les regardait, les mains croisées, la tête inclinée sur l'épaule et pareille à la statue de la pitié, « Oh, mon bon ami, sauvez-moi !»« J'y tâcherai, dit Salvator, mais pour que j'y arrive, il faut que je sache les circonstances dans tous leurs détails. Vous comprenez que ce n'est point par curiosité, n'est-ce pas, que je vous demande vos secrets ?»« Oh, Dieu me garde d'en avoir pour vous, Regina en a-t-elle pour Fragola ?» Et Pétrus tendit la main à la jeune fille. « Alors, dit Fragola, pourquoi n'est-elle pas venue me trouver ? Que pouviez-vous faire dans une circonstance pareille ? Demanda Pétrus. « Pleurer avec elle, répondit simplement Fragola. « Vous êtes un ange, murmura Pétrus. « Voyons, dit Salvator, il n'y a pas de temps à perdre. Voyons cette lettre adressée à Madame la Comtesse Rapt. Comment est-elle entre vos mains? Comment les lettres de Madame la Comtesse Rapt sont-elles entre celles de ce bandit? Et qui soupçonnez-vous de les avoir volées? Je vais tâcher de mettre autant d'ordre dans mes réponses que vous en avez mis dans vos demandes, mon cher Salvator, mais ne m'en veuillez pas si, n'ayant pas sur moi le pouvoir que vous avez sur vous, je m'écarte du chemin que vous me tracez. « Dites, mon ami, dites, reprit Salvator de sa voix la plus douce et la plus encourageante. Dites et ayez confiance en Dieu, ajouta Fragola en faisant un mouvement pour se retirer. « Oh, restez, restez, dit Pétrus, n'êtes-vous pas l'ami de Regina depuis plus longtemps que Salvator n'est le mien ?» Fragola s'inclina en signe d'assentiment. « Eh bien, ce matin, il y a une demi-heure, dit Pétrus, après un moment de silence pendant lequel il avait rassemblé ses idées, Regina est arrivée chez moi, la figure bouleversée. « Avez-vous mes lettres ? » m'a-t-elle demandé. J'étais si loin de me douter de ce qui se passait que je lui demandais moi-même « Quelles lettres ?»« Les lettres que je vous ai écrites, mon ami, » répondit-elle. « 11 lettres ?»« Mais elles sont là, » répondis-je. « Où ça ?»« Dans ce bahut, dans notre coffre. Ouvrez-le, voyez-y et montrez-les-moi. » J'avais la clé suspendue à mon cou, je ne la quitte jamais. Le coffre était scellé au bahut, j'avais donc cru pouvoir répondre affirmativement. « Montrez-les-moi, vite, vite » répéta-t-elle. J'allais au bahut, je tirai la porte, le coffre était à sa place. « Voyez, lui dis-je. »« En effet, répondit-elle, je vois le coffre, mais les lettres, les lettres !»« Les lettres sont dedans. Montrez-les-moi, Pétrus. » J'ouvris le coffre plein de confiance et de sourire sur les lèvres. Le coffre était vide. Je jetai un cri de désespoir. Regina poussa une plainte. « Ah !» dit-elle, « c'était donc vrai. » J'étais écrasé, je n'osais pas relever la tête. Je tombai à genoux devant elle. Ce fut alors seulement qu'elle me présenta la lettre que vous connaissez. Je la lus. « Mon ami, je comprends alors combien facilement on peut devenir un meurtrier. Soupçonnez-vous quelqu'un? Êtes-vous sûr de votre domestique ?» « Mon domestique est un imbécile, mais il est en même temps incapable d'une mauvaise action. »« Il est cependant impossible que vous n'ayez point de doute sur quelqu'un. »« J'ai bien un soupçon, mais nulle certitude. »« On procède du connu à l'inconnu. Qui soupçonnez-vous ? » ?»« Un homme que vous eussiez vu chez moi si, depuis quelque temps, vous y étiez venu. » Salvator, au lieu de s'excuser de ne pas avoir été visiter son ami, garda le silence. Un homme, répéta Pétrus, qui comprenait la cause du mutisme de Salvator, un homme qui se disait « mon parrain ».« Votre parrain, ah oui, une espèce de capitaine de vaisseau, n'est-ce pas ?»« Justement, grand amateur de peinture. »« C'est cela, un vieux camarade de mon père, le connaissez-vous »« Non, mais avant mon départ, Jean Robert m'a dit deux mots de lui, et au signalement qu'il m'a donné, j'ai senti vaguement que vous alliez être dupe de quelque escroquerie, ou du moins de quelque mystification. Par malheur, j'étais forcé de m'absenter pendant quelques jours, mais aujourd'hui même, j'allais aller chez vous pour faire connaissance avec ce personnage. Et vous dites que cet homme s'est présenté chez moi comme un ancien ami de mon père, se nommant d'un nom qui m'était bien connu et que tout enfant j'avais appris à respecter comme celui d'un brave et loyal marin. Mais celui qui se présentait chez vous, avait-il le droit de porter ce nom? Comment en aurais-je douté et quel eût été son but? Vous le voyez, de vous soustraire ses lettres. Comment aurais-je pu soupçonner cela? Il se présentait chez moi, riche comme un nabab, et il a commencé par me rendre un service. Un service, fit Salvator, regardant fixement Pétrus. Quel service? Pétrus sentit qu'il rougissait jusqu'au blanc des yeux sous le regard de Salvator. Il a empêché, balbutia Pétrus, que je ne vendisse mes meubles et mes tableaux en me prêtant 10 000 francs. Oui, pour lesquels il en demande 500 000 à la comtesse Rapt. Voilà, vous en conviendrez, mon cher Pétrus, un gaillard qui sait faire valoir son argent. Pétrus ne put s'empêcher de jeter un regard de reproche à Salvator. Enfin, dit le jeune peintre, c'est un tort, j'en conviens, mais ces 10 000 francs, je les ai acceptés. De sorte que c'est 10 000 francs de plus que vous lui devez, dit Salvator. Oh, dit Pétrus, sur ces 10 000 francs, j'ai payé 6 ou 7 000 francs de dettes pressées. La question n'est point là, dit Salvator. Revenons au malheur réel. Cet homme a disparu de chez vous. Oui. Depuis quand? Depuis hier matin. Vous ne vous êtes point inquiété de cette disparition? Non, il lui arrivait parfois de coucher dehors. C'est cet homme. Cependant, je vous dis que c'est lui. Nous ferions fausse route en suivant une autre trace. Je le crois comme vous, mon ami. Qu'a fait la comtesse en recevant ces lettres? Elle a calculé ses ressources. Elle est immensément riche. Oui, mais elle ne peut vendre ou emprunter qu'avec le consentement de son mari, et elle ne peut lui demander ce consentement, puisqu'il est à 800 lieues d'elle. Elle a donc réuni ses diamants, ses dentelles, ses bijoux, mais toutes ces choses, fort chères quand on les achète, perdent plus de la moitié de leur valeur lorsqu'on veut les vendre. Elle peut faire 75 à 80 000 francs au plus. Elle a des amis. Madame de Marande, elle a en effet couru chez elle. Monsieur de Marande est à Vienne. Ne dirait-on pas que tout est conjuré contre nous? Madame de Marande lui a donné tout ce qu'elle avait d'argent et une parure d'émeraude. Cela peut monter à 60 autres 1 000 francs. Quant à la pauvre Carmélite, inutile d'y songer, c'était lui faire une douleur sans résultat. Et quant à la pauvre Fragola, dit la jeune fille, elle n'a que cet anneau d'or qu'elle ne donnerait pas pour 500 000 francs, c'est vrai, mais qui, pour un bijoutier, en vaut 10. Vous avez votre oncle, insista Salvator. Le général est riche, il vous aime, c'est un vrai chevalier. Il donnerait certainement sa vie pour racheter l'honneur d'une femme comme la comtesse Rapt. Oui, dit Pétrus, il donnerait sa vie, mais il ne donnerait point la dixième partie de sa fortune. J'ai pensé tout naturellement à lui, comme vous dites, mais le général est violent et ne connaît que les prompts expédients. Il irait s'embusquer derrière un arbre avec sa canne à épée, et il tomberait sur le premier passant équivoque qu'il rencontrerait à cette heure sur le boulevard des Invalides. Et quand ce passant-là, reprit Salvator, serait notre escroc lui-même, il pourrait bien n'avoir pas les lettres dans sa poche. D'ailleurs, comme le drôle l'a dit lui-même, toute tentative d'arrestation ou de meurtre amènerait un procès, la publicité des lettres, cette publicité, le déshonneur de la comtesse. Peut-être y aurait-il un moyen, dit Pétrus. Lequel, demanda Salvator. Et vous connaissez Monsieur Jacal? Fait bien. Ce serait de le prévenir. Salvator sourit. Oui, en effet, c'est le moyen le plus simple et le plus naturel en apparence, mais c'est le plus dangereux en réalité. Comment cela? À quoi nous ont servi nos recherches légales dans l'enlèvement de Mina? Sans le hasard, je me trompe, sans la providence qui a permis que je la retrouvasse d'une façon inespérée, elle serait encore prisonnière de Monsieur de Valgeneuse. À quoi nous ont servi ces mêmes recherches dans l'affaire de Monsieur Sarranti, à faire disparaître Rose de Noël, comme avait disparu Mina? Sachez bien ceci, cher ami, c'est que notre police de 1828 ne découvre une chose que lorsqu'elle a intérêt à la découvrir. Or, dans l'affaire dont il s'agit, je suis à peu près sûr qu'elle ne découvrira rien, et bien plus, que, loin de nous venir en aide, elle nous desservira de tout son pouvoir. Et pourquoi ? Et parce que, ou je me trompe fort, ou la police n'est étrangère à rien de ce qui nous arrive. La police ? Ou les policiers ? Nous sommes mal notés au livre de Monsieur de Lavaux, mon cher ami. Mais quel intérêt la police peut-elle avoir au déshonneur de la comtesse Rapt ? J'ai dit la police ou les policiers. Il y a la police et les policiers, comme il y a la religion et les prêtres. Ce sont deux choses fort différentes. La police est une institution salutaire, exercée par des gens fort gangrenés. Vous demandez quel intérêt la police peut avoir au déshonneur de Regina ? Quel intérêt pouvait-elle avoir à l'enlèvement de Mina ? Quel intérêt a-t-elle à l'exécution de M. Sarranti, dont l'échafaud sera dans 8 jours dressé en place de grève ? Quel intérêt a-t-elle à ce que M. Gérard passe pour un honnête homme et obtienne le prix Montyon ? Quel intérêt, enfin, a-t-elle à ce que Rose de Noël disparaisse de chez la brocante ? La police, cher ami, c'est une tortueuse et ténébreuse déesse qui ne s'avance que par des voies obscures et souterraines. Vers quel but, nul ne le sait qu'elle-même, quand elle le sait. Elle a tant d'intérêt, cette digne police, qu'on ignore toujours vers quel but elle agit. Intérêt politique, intérêt moral, intérêt philosophique, intérêt humoristique. Il y a des hommes d'imagination, comme M. de Sartine, des hommes de fantaisie, comme M. Jacal, qui font de la police tantôt un art, tantôt un jeu. C'est un homme diablement fantaisiste que M. Jacal. Allez, vous connaissez sa maxime lorsqu'il veut découvrir un secret quelconque, chercher la femme. Dans ce cas, la femme n'a pas été difficile à trouver. Il y a en ce moment-ci, d'ailleurs, police et contre-police. Police du roi, police de Monsieur le Dauphin, police royaliste, police ultra-royaliste. Monsieur le Contrapte est envoyé à Saint-Pétersbourg. Le bruit court que c'est pour aller traiter avec l'empereur à huis clos d'un grand projet qui aurait pour but une alliance contre l'Angleterre, alliance dans laquelle on nous rentrait nos frontières du Rhin. En outre, M. de La Motoudan a été appelé aux Tuileries. On veut l'amener à faire partie d'un nouveau ministère composé de M. de Martignac, de M. Portalis, de M. de Caux, de M. Roy, de M. Laferronnet, que sais-je. Mais le maréchal ne se laisse point prendre à tous ces marivaudages. Il refuse de faire partie d'un ministère de transition. Peut-être veut-on forcer la main au maréchal et le mettre entre un portefeuille et un scandale. Eh, mon Dieu, mon cher, par le temps qui court, tout est possible. Oui, dit Pétrus avec un soupir, excepté de trouver 500 000 francs. Salvatore fit comme s'il n'eût pas entendu. Puis, poursuivant sa pensée, « Remarquez cependant que je n'affirme rien, dit-il, je cherche avec vous. » « Oh, moi, dit Pétrus découragé, je ne cherche même pas. » Alors, dit Salvatore avec un sourire qui ne laissa point d'étonner Pétrus, alors je tâtonne seul. Toutefois, ou je me trompe étrangement, ou il doit y avoir de la police, ou tout au moins du policier là-dessous. Cet homme de mer qui vient s'installer chez vous, qui vous connaît depuis votre enfance, qui en sa qualité d'ancien ami du capitaine Hervel sait tous vos secrets de famille, cet homme me paraît sortir tout vif de la rue de Jérusalem. Il n'y a qu'un père ou une mère ou la police, cette mère de la société, qui connaissent ainsi la vie d'un homme depuis le berceau jusqu'à l'atelier. Puis j'ai toujours pensé que, par l'écriture, on pouvait connaître le caractère d'un homme. Voyez la main qui a tracé ces lignes. Salvatore montra la lettre à Pétrus. La main qui a tracé ces lignes n'a pas tremblé. L'écriture est large, droite, ferme, aucunement déguisée. Preuve que l'écrivain n'a pas peur qu'on le reconnaisse. Il est l'image de l'esprit qui la dicte. L'homme qui a confectionné cette épître est donc non seulement un habile homme, mais encore un homme de résolution. Il sait parfaitement qu'il risque les galères. Et pourtant, pas une lettre n'hésite, pas une ligne ne dévie. C'est esprit clair, écrit droit, comme écrirait un teneur de livre. Nous voilà donc en face d'un compagnon hardi, adroit et résolu. Bien soit, j'aime la lutte autant que je hais la ruse. Nous agirons en conséquence. Nous agirons, dit Pétrus. Je veux dire que j'agirai. Mais si vous me promettez d'agir, reprit Pétrus, c'est donc que vous avez quelque espérance? Oh, j'ai mieux qu'une espérance maintenant, j'ai une certitude. Ah, Salvator, s'écria Pétrus, devenant presque aussi pâle de joie qu'il l'avait été de terreur. Salvator, faites attention à ce que vous me dites. Je vous dis, mon ami, que nous avons affaire à un rude lutteur, mais vous m'avez vu à la besogne, et vous savez que j'ai l'air insolide. Où est Regina? Elle est retournée chez elle et attend avec anxiété que Fragola lui porte une réponse. Elle a donc compté sur Fragola, comme j'ai compté sur vous. Allons, vous avez eu raison tous les deux, et cela fait plaisir d'avoir des amis qui ont une pareille confiance en nous. Mon Dieu, Salvator, je n'ose vous interroger. Mets ta mante et ton chapeau, Fragola. Prends une voiture, cours chez Regina, dis-lui de rendre à Madame de Marande sa parure et ses billets de banque, dis-lui de remettre, quant à elle, ses diamants dans son écrin et son argent dans sa bourse, dis-lui surtout d'être tranquille, de ne point se tourmenter, et ce soir, à minuit, de mettre la bougie demandée à la dernière fenêtre de son pavillon. « J'y vais, » répondit la jeune fille, sans paraître aucunement étonnée de la mission que lui donnait Salvator. Et elle entra dans sa chambre pour prendre sa mante et son chapeau. « Mais, » dit Pétrus, « si Regina a fait ce soir le signal demandé demain, à la même heure, l'homme se présentera pour réclamer les 500 000 francs. »« Ah, sans aucun doute. »« Mais que fera-t-elle alors ?»« Elle les lui donnera. »« Et qui les lui donnera à elle pour les donner à cet homme ?» « Moi, » dit Salvator. « Vous ? » s'écria Pétrus, presque épouvanté de cette assurance, et près de croire que Salvator était fou. « Sans doute, moi. Mais où les trouverez-vous ? Cela doit peu vous importer, pourvu que je les trouve. Oh, mon ami, à moins que je ne les voie, je vous avoue. « Vous êtes bien incrédule, Pétrus. Vous avez cependant un précédent, saint Thomas. Eh bien, comme saint Thomas, vous verrez. Quand cela ? Demain. » Demain, je verrai les 500 000 francs, tout divisé en 10 paquets, afin d'épargner à Regina la peine de les diviser elle-même. Chaque paquet, comme il est indiqué, contiendra 10 billets de banque de 5 000 francs chacun. Mais, balbutia Pétrus, ce ne seront point de vrais billets. Bon, et pour qui donc me prenez-vous ? Demanda Salvator. Je n'ai point envie que notre homme m'envoie aux galères. « Ce seront de beaux et bons billets de 5 000 francs, à l'encre rouge et portant en toutes lettres cette légende, la loi punit de mort le contrefacteur. »« Me voici, » dit Fragola, rentrant, toute prête pour la course. « Tu te souviens de ce que tu as à dire ?»« Rends à Madame de Marande de sa parure et ses billets de banque, remets tes diamants dans ton écrin et ton argent dans ta bourse et fais demain à l'heure dite le signal convenu. »« Qui est ?» qui est de mettre une bougie allumée derrière la dernière fenêtre du pavillon. Hein, fit Salvator en riant, ce que c'est que d'être la maîtresse d'un commissionnaire. Voilà comment on fait les commissions. Va, ma colombe de l'arche, va. Et Salvator regarda sortir Fragola avec un œil plein d'amour. Quant à Pétrus, il eût voulu baiser les petits pieds qui paraissaient se presser de porter une bonne nouvelle à une amie. « Ah, Salvator !» s'écria Pétrus en se jetant dans les bras de son ami quand la porte se fut refermée derrière Fragola. « Comment vous remercierai-je jamais du service que vous me rendez ?»« En l'oubliant, » répondit Salvator avec son doux et calme sourire. « Mais enfin, » insista Pétrus, « ne puis-je vous être bon à rien ?»« À rien, absolument, mon ami. Dites-moi cependant ce que je dois faire. »« Vous tenir parfaitement tranquille. »« Où cela ?» Où vous voudrez, chez vous, par exemple. Je ne pourrai jamais. Ah, promenez-vous alors, courez à pied, montez à cheval, allez à Belleville, à Fontenay-aux-Roses, à Bondy, à Montmartre, à Saint-Germain, à Versailles, allez partout où vous voudrez, excepté au boulevard des Invalides. Mais Regina, Regina, Regina va être complètement rassurée par Fragola, et je suis sûr que, plus raisonnable que vous, elle se tiendra chez elle. « Voyez-vous, Salvator, c'est un rêve. »« Oui, un mauvais rêve, mais qui, espérons-le, finira mieux qu'il n'a commencé. »« C'est-à-dire que demain, je verrai les 500 000 francs en billets de banque. »« À quelle heure serez-vous chez vous ? À l'heure que vous voudrez, toute la journée s'il le faut. »« Ah bon, vous disiez que vous ne sauriez rester en place. Vous avez raison, je sais ce que je dis. Eh bien, à demain à 10 heures, si vous voulez, mon cher Salvatore. À demain, 10 heures du soir. Vous permettez que je vous quitte, il faut que je prenne l'air, j'étouffe. Attendez, j'ai moi-même à sortir, nous allons descendre ensemble. Oh mon Dieu, dit Pétrus en battant l'air de ses bras, suis-je bien éveillé, est-ce bien réel? Nous sommes sauvés. Et il emplit ses poumons d'air par une large et bruyante aspiration. Pendant ce temps, Salvatore entrait dans la chambre à coucher et prenait dans le tiroir à secret d'un petit meuble en bois de rose un papier orné d'un double timbre et couvert d'une fine écriture qu'il mettait dans la poche de côté de sa veste de velours. Les deux jeunes gens descendirent rapidement l'escalier, laissant à Roland la garde de l'appartement. À la porte de la rue, Salvatore tendit la main à Pétrus. « Nous ne suivons pas le même chemin ?» demanda celui-ci. « Ah, je ne crois pas, » dit Salvatore. « Vous allez, selon toute probabilité, rue Notre-Dame-aux-Champs, tandis que moi, je vais certainement rue aux Fers. »« Comment vous allez ?»« À ma borne, » dit en riant Salvatore. « Il y a longtemps que les dames de la halle ne m'ont vu, et elles doivent être inquiètes de moi. Puis je vous avouerai une chose, c'est que j'ai besoin de faire une ou deux commissions pour compléter vos 500 000 francs. » Et, le sourire sur les lèvres, Salvatore salua de la main Pétrus, lequel reprit, en songeant à tout ce qui venait de se passer, le chemin qui conduisait à la rue Notre-Dame-des-Champs. Comme nous n'avons rien à faire dans l'atelier du peintre, suivons Salvatore, non point du côté de la rue aux Fers, où il n'avait nul dessein d'aller, quoi qu'il en y dût à Pétrus, mais rue de Varennes, où était située l'étude du digne notaire que nous avons déjà eu l'honneur de présenter à nos lecteurs sous le nom de maître Pierre-Nicolas Barateau.